La revue de presse, Frédéric Pommier, bonjour.
Bonjour Laetitia et bonjour à tous. En Suède, au début de l'été, un nouveau musée a ouvert. Son nom, le musée de l'échec. Habituellement, ce sont des réussites que l'on expose. Réussites artistiques, notamment des sculptures, des tableaux. Or là, le concepteur du lieu a pris le contre-pied de la culture du succès dominant dans le monde actuel, choisissant de mettre en avant différents grands ratés de la société de consommation, différents produits qui ont pour point commun d'avoir fait un flop commercial. C'est ainsi que dans son musée de l'échec, on peut voir une bouteille de Coca-Cola au café. Vous n'en trouverez pas ailleurs, la boisson n'a pas fonctionné. On y voit également un flacon de parfum siglé Harley Davidson. Parfum pour les motards avec une forte odeur de cuir. Là encore, un échec total. Idem lorsque Colgate, la marque de dentifrice, avait tenté de se lancer dans les lasagnes surgelées. Bienvenue au spectacle du naufrage des autres. Commente David Fuenquinos dans Psychologie Magazine, qui a donc visiblement découvert le dit musée et précise que c'est vraiment l'endroit idéal pour se remonter le moral. De voir ces objets avortés, ces projets avortés, ces grandes enseignes qui se plantent de façon phénoménale, ça remonte le moral. Sachant bien entendu que l'échec n'empêche pas ensuite la réussite et l'écrivain de citer cette phrase sublime de Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Pour David Fuenquinos, ce musée de l'échec valorise ainsi les moments de notre vie où l'on trébuche, moments que l'on ne doit pas ignorer car ils ont toute leur importance dans notre progression. Et lui-même se souvient d'une de ses toutes premières rencontres littéraires. Il y a 10 ans, dans une Fnac, dans la salle, écrit-il, il n'y avait qu'une seule personne. C'était une femme qui m'a dit « J'ai oublié mes clés, du coup je peux pas rentrer chez moi ». Ce souvenir, je le mets en bonne place au musée de mes échecs, conclut-il. C'était violent, oui. C'était risible, mais comme Churchill, j'ai gardé mon enthousiasme.
Lui également a décidé de garder son enthousiasme. Étonnant portrait de Manuel Valls dans M, le magazine du Monde.
Un long portrait que signent Solène de Royer et Vanessa Schneider. Manuel Valls après le déluge. C'est le titre à la une. Avec une photo où on le reconnaît franchement assez difficilement, regard en biais, drôle de sourire. Ce n'est plus le premier flic de France, Martial Place Beauvau. Ce n'est plus le premier ministre ambitieux de l'hôtel Matignon. À 5 ans, Manuel Valls a tout conquis, puis tout perdu. Rarement, homme politique aura connu chute plus brutale, humiliation lors de la primaire de la gauche. Il est très largement devancé par Benoît Hamon. Humiliation lors de la campagne législative. Il mendie une investiture au parti présidentiel qui lui rétorque de postuler sur le site internet avant de faire savoir qu'il ne correspond pas aux différents critères requis. Puis il s'est pris de la farine à Strasbourg pendant la campagne et même une gifle en Bretagne. C'est vrai, je suscite la violence, admet-il, en confiant qu'il a ressenti une hostilité presque physique. Humiliation ensuite lors de son élection à l'Assemblée, une victoire avec moins de 140 voix d'avance sur son adversaire de la France insoumise. Et depuis, dans les couloirs de l'Assemblée, très rares sont ceux qui lui adressent la parole. Valls est devenu paria pour ses ex-amis socialistes et d'ailleurs, lui-même ne parle plus à François Hollande. On ne se voit pas, assène-t-il, je n'ai rien à lui dire et lui non plus, sans doute. Certains de ses proches le disent très abîmé, d'autres qui l'ont quitté parlent d'un épouvantable gâchis. Et comme l'écrivent mes consoeurs, ces derniers mois, les traits de l'ancien Premier ministre se sont encore retirés, sa bouche s'est crispée, sa peau a rougi comme dévorée par un feu, par une colère intérieure. Mais officiellement, Valls laisse entendre même pas mal, et même si son parcours mériterait sans doute de figurer au musée de l'échec, il continue de croire dur comme fer à son avenir. « Ma vie politique est encore devant moi », lance-t-il. Preuve de sa force mentale ou de son aveuglement, commente le magazine.
Et que dire de Donald Trump? Sa présidence figurera-t-elle au musée de l'échec?
En tout cas, les journaux chaque jour dénoncent son aveuglement. Pour preuve, ce matin encore sur le Huffington Post, qui revient sur 2 annonces du président américain. Première annonce, la grâce de Joe Arpaio, le très controversé shérif de l'Arizona, âgé de 85 ans, il avait été condamné pour avoir fait preuve d'un zèle excessif à traquer les immigrés clandestins. Or, selon un communiqué de la Maison-Blanche, Le shérif, après 50 ans d'admirable service pour son pays, méritait un pardon présidentiel. Seconde décision, prise hier également, Donald Trump ordonne au Pentagone de ne plus recruter de personnes transgenres. Selon les estimations, plusieurs milliers de personnes transgenres, peut-être jusqu'à 15 000, serviraient actuellement dans l'armée américaine, suite à l'accord donné en ce sens l'an dernier par Barack Obama.
Et puis pour rester sur les affaires états-uniennes, Frédéric, question énigmatique dans Aujourd'hui le Parisien, qui casse les oreilles américaines à Cuba ?
Des membres de l'ambassade américaine de la Havane se plaignent de pertes d'audition. Après de mystérieuses attaques acoustiques, ce n'est pas l'affaire du tournesol, mais ça y ressemble, note le quotidien. Rappelant que dans l'album d'Hergé, le professeur Dur de la Feuille invente une machine à ultrasons pour briser le verre. Rien de tel donc à Cuba, mais pour reprendre une autre aventure de Tintin, beaucoup d'oreilles cassées. Et même si l'on ne sait pas d'où viennent ces attaques acoustiques, écrit Cyprien Pézril, voilà une affaire susceptible d'envenimer les relations entre les États-Unis et Cuba. Relations rétablies en 2015 après un demi-siècle de rupture, mais qui se sont de nouveau dégradées avec l'élection de Donald Trump. Cela dit, ce sont d'autres relations diplomatiques qui font la une ce matin, en l'occurrence les relations entre la France et la Pologne. Vous en avez parlé avec votre invité, passe d'armes entre les deux pays sur les travailleurs détachés, avec tout d'abord une attaque d'une rare brutalité du président français, lequel a martelé, comme le rapporte Jean Quatremer dans Libération, que le peuple polonais méritait mieux que des dirigeants qui refusent de lutter contre le dumping social. Réplique immédiate de la première ministre polonaise dénonçant à la fois l'arrogance et l'inexpérience d'Emmanuel Macron. Macron et la Pologne, le ton monte, commente Ouest France. Macron va au clash sur les travailleurs détachés, titre pour sa part l'Est éclair. Tandis que le Figaro explique à sa une que le chef de l'État engage un bras de fer avec la Pologne. L'assaut a été franc et brutal, mais Emmanuel Macron a raison, estime Arnaud de Lagrange dans son édito. Pour réconcilier les Français avec l'Europe, il ne pouvait choisir meilleur sujet. Et l'éditorialiste de conclure que le président français doit désormais impérativement arracher une victoire sur ce dossier-là. Une victoire pour ne pas finir au musée de l'échec, entre une bouteille de Coca-Cola au café, un parfum à l'odeur de cuir et des lasagnes surgelées de la marque Colgate. Et puis pour finir, je vous conseille la lecture du savoureux supplément de Libération ce matin. Long reportage en compagnie de l'actrice Catherine Deneuve, qui est partie en Normandie à la rencontre d'un couple de pionniers de la permaculture, Perrine et Charles Hervé Gruyer. Vous découvrirez ce qu'est la permaculture, on observe la nature, on obéit à son fonctionnement, et puis vous découvrirez la passion de Catherine Deneuve pour l'horticulture, son amour pour les plantes. Ce qu'elle aime, dit-elle, c'est échanger silencieusement avec elle. Ce papier est une réussite.
Merci Frédéric Pommier. La météo, Jean-Michel Golinski, nuages, soleil et chaleur.
Voilà, soleil et nuages vont souvent alterner aujourd'hui. Actuellement, les éclaircies dominent déjà sur une large bande centrale du pays. Au nord de la Loire, les fréquents nuages bas vont se dissiper vers la fin de la matinée. Et puis, du golfe du Lion, rive de la Garonne, le vent marin et l'OTAN vont maintenir un ciel maussade jusqu'en milieu de journée. Les températures partout au-dessus de moyenne vont afficher jusqu'à 26 degrés près de la Manche. Il fera 28 à Rennes et Paris, 30 à 33 sur le reste du pays, localement 35 degrés sur l'Aquitaine. Ainsi que sur le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône. Ces trois départements du centre-est sont maintenus en vigilance orange canicule. Notez qu'un orage pourra se déclencher cet après-midi en montagne et en fin de journée sur la façade atlantique.
Merci Jean-Michel Golinski.